Vous êtes sur 106.8, Radio Grand Ciel Chartres, du côté de la Pointe aux Âmes. Une émission écrite et présentée par Robert Giroux. Nous entrons dans le monde des instruments à cordes. Des cordes frottées, des cordes battues, des cordes pincées, des cordes effleurées, toutes les cordes et toutes les musiques. Soyez les bienvenus, d'où que vous nous écoutiez, qui que vous soyez. Ici, la musique chante pour tous et vit en chacun, sans exclusion et sans privilège. Alors un grand bonjour à vous tous et toutes, du côté de la Pointe aux Âmes. Permettez-moi d'abord de saluer Simon Martin, notre ingénieur son que j'ai la joie de retrouver aujourd'hui. Nouvelle saison donc, et cela ne vous aura pas échappé, nouvel indicatif. Désormais, ce sera David Griezmann qui fera les présentations avec cette belle valse intitulée « O'Banion's Wake ». David Griezmann est maître mandoliniste, auditaire bluegrass, newgrass, jazz acoustique et que sais-je encore. L'homme a un penchant affirmé pour le swing gitan, dont il faut se souvenir qu'il était aussi fait de ces valses infiniment mélancoliques et musicalement très abouties, très exigeantes pour l'interprète. Les chartrains plus âgés se souviennent du grand Francis Moermans qui les jouait admirablement. Plus loin dans le temps, on pourrait citer Matelot Ferré, plus près de nous, le grand Patrick Sossois dont je vous reparlerai. Nous voici au sortir de ce temps d'été, temps où nous avons pu refaire nos forces, refaire les liens avec nos familles, nos proches, nos amis, revoir nos terres, en découvrir d'autres, nous ouvrir, nous élargir, grandir, évoluer. Cet été me fut une succession de paysages. Cluny, les Hautes-Alpes, l'Italie, puis retour en Bourgogne, le château de Cormatin. Une succession de couleurs, de sensations, de bonnes lectures, de marches, de retrouvailles, de surprises, de découvertes, et de longs instants où l'harmonie des cieux apportait son bienfait à l'âme et au cœur. Et à chaque instant, une musique était présente, même dans le silence. Affaire de ce que Charles Baudelaire nommait « correspondance », dans cette merveille de poème célébrant l'éveil à la totalité du monde et le lien véridique unissant toute chose qui vit. Cluny d'abord, lumière terrestre et lumière d'en haut. Voir ce qui est à la lumière de ce qui n'est plus. Ici, combien de gens viennent-ils admirer ce qui a disparu, s'assurer de l'invisible ? Je ne suis plus, donc je suis, le genre de devise qui ornerait mon blason, si seulement j'en avais un. Cluny est à la fois joyeuse, sereine et joliment mystérieuse aussi. Tout y semble comme tenu au secret. Ce qui ne se défilera pas par une ruelle disparaîtra derrière une arcade. On y marche silencieusement et perdu dans ses pensées. Et l'on pense. À la pierre, aux heures, à une vie longue et paisible dans le secret des coteaux de Sud-Bourgogne. Ça c'est pour le jour où je m'appellerai Rockefeller, parce qu'à part une niche à chien à crédit, je ne vois pas ce que je pourrais bien me payer par ici. L'argent fait mal penser ceux qui en ont, comme ceux qui n'en ont pas. Ceci dit, les lézards ont l'air heureux ici, à se la couler douce dans les murs. Je crois que c'est au futur qu'il faut concevoir Cluny. Reste la trace indélébile de l'esprit et la permanence de la présence divine. Aube d'une foi qui porte en elle son apogée, cette flèche qui dressera, que l'on ne voit pas encore, mais dont on devine la place, le dessin, dont on sentirait presque l'ombre sur soi. Chacun croit, chacun doute. Nombre de mes amis les plus chers n'ont pas de foi religieuse, mais sont emplis d'espérance, de bonté, de sollicitude, de fidélité. Ils sont mes amis pour cela, et j'espère être leur ami pour d'aussi bonnes raisons. En hommage très affectueux à la cité de Cluny, à ses habitants, à ses tours, à ses murs, extrait des 20 regards sur l'enfant Jésus d'Olivier Messiaen, le regard du temps, Yvonne Loriot est au piano.
Thank you.
Il est un musicien qui s'est trouvé à chaque station du temps de mes vacances. Et cela sans même que je l'ai voulu, naturellement. Maurice Ravel. Cela commença par une lecture que j'avais en retard. Les forêts de Ravel, de Michel Bernard, aux éditions La Table Ronde. Roman chroniquant les années de guerre de Ravel, le premier conflit mondial. Ravel a alors 41 ans et refuse de rester à l'arrière pendant que ses compatriotes se font tuer au front. Malgré son âge qui ferait plus que le dispenser d'aller à la guerre, malgré un état de santé des plus moyens, il fera un siège constant, acharné de l'administration, jusqu'à obtenir de pouvoir combattre. On lui confie un camion. Il ira sur le front, chercher les blessés parfois aux dernières extrémités, pour les conduire en quelques lieux où ils seront soignés, mis en convalescence ou renvoyés au feu. Ravel refusera toujours le confort des lignes arrières et mettra sans sourciller son état et son devenir de compositeur et de musicien en péril, cela pour son pays et pour ses semblables. Michel Bernard nous rend la rage des combats, l'imminence du danger dans toute leur force obsédante, envahissante. Mais le fait sans la moindre lourdeur de style, par une écriture devenant plus économe, plus pudique, à mesure qu'elle devient plus précise. À le lire, il m'a semblé parfois lire l'un de nos grands romanciers du XIXe siècle. Ce style très contenu permet à Michel Bernard de faire advenir de purs instants de lumière. Ravel et les passagers de son camion sont bombardés. Le musicien utilise à plein son oreille. Il sait que cette fois les bombes sont tout près, que le camion peut y passer, qu'ils doivent se précipiter illico dans le fossé le plus proche pour espérer échapper aux éclats et s'y recroqueviller. Ils s'y jettent, tous. Pendant le bombardement, un oiseau vient se poser tout près d'eux. Pris dans le boucan permanent de la guerre, Ravel et le monde autour n'a plus entendu le chant d'un oiseau depuis des lustres. Et là, dans ce fossé, un oiseau se met à chanter. Et ils l'entendent. Mieux, l'oiseau semble ignorer le feu et fait ce que fait un oiseau de toute éternité. Il sautille, il sifflote et cherche ça et là une plume ou une petite branche à emporter pour faire son nid. Ils passaient leur dire que la vie demeurait et que rien d'humain ne saurait la compromettre, l'éteindre. Le livre parle de l'honneur de souffrir ensemble et de l'honneur de servir, d'aider, de secourir son prochain, de la foi en l'homme et en la force vitale, où l'on comprend que la perfection, la splendeur de la phrase musicale et du monde harmonique de Maurice Ravel sont perfection d'âme, richesse de cœur. J'ai encore retrouvé Ravel dans le village de La Grave, au pied du glacier de la Meije. Dans la belle petite église perchée dans les hauteurs du village, nous étions attendus par Lorenzo Soules, jeune et belle promesse du piano français. Ce fut d'abord une sonate de Scriabine, sinueuse, prenante, belle à s'y noyer, puis une œuvre de Tristan Murailles, retrouvant avec bonheur l'intimité du piano. Et puis, Maurice Ravel, au plus fort de l'éblouissement, Gaspard de la nuit. J'ai fini cet été à Montfort-l'Amaury, cher Ravel encore, dans ses murs, dans son jardin. L'endroit tient à la fois de la jonque oubliée et du temple bouddhique. Ses proportions sont très inhabituelles. Ravel était de petite taille et l'on a parfois l'impression d'être dans la maison d'une créature extraordinaire. Depuis le balcon, on peut voir tout le domaine boisé de Rambouillet se dérouler et un œil fin saura discerner dans le loin une pointe dans l'infini, juste avant l'invisible, comme un murmure de Paris déjà, la toute extrémité de la pointe de la tour Eiffel. J'ai passé là un vrai moment de grâce. En souvenir de Ravel, de son jardin japonais, j'ai choisi de vous faire entendre, extrait de ma Merlois, le jardin féerique dans l'interprétation de Jacques Rouvier. Un jour que nous nous trouvions au-dessus de Briançon, nous avons passé la frontière, direction l'Italie, par des routes de montagne plus qu'étroites, à flanc de vertige, jusqu'à la station de Bardonecchia. Nous avons passé là une journée douce, lente, ensoleillée, joyeuse. Bardonecchia est une vieille station de ski italienne, avec un quartier ancien de maisons basses recouvertes d'ardoises, de rues pavées, dans lesquelles personne ne semble pressé. Âgés ou non, ces gens semblaient heureux d'être là où ils étaient, et moi de parler avec eux le peu d'italien qui me restait. Voyons un peu ça. Tocca tocca la canella e fantasia numero 56 del maestro Francesco Canova da Milano. Pas mal, non? À savoir, Francesco da Milano, interprété par Paul Odette, d'abord au luth alto à 6 chœurs, puis au luth ténor à 6 chœurs. Le château de Cormatin, c'est une allée, d'abord. Allée profonde, chaude, où l'air d'été vous monte au visage et vous saisit comme un vin liquoreux. On y serait vite ivre d'avoir trop profondément respiré. Et puis la vue se dégage. Le rideau s'ouvre et Cormatin paraît. C'est un château qui ne m'évoque pas le pouvoir ou la royauté. On dirait plutôt une vision de cinéma. J'ai repensé immédiatement à certaines actrices que j'aimais lorsque j'étais enfant, à la si délicate Pascale Audrey ou à l'envoûtante Estella Blin, à Marina Vladi, bien sûr. On repère d'emblée les tentures, les sous-sols, les recoins où respectivement les jeunes Alphonse de Lamartine et Jacques de La Cretelle ont pu se cacher et rendre maboule les adultes lancés à leur recherche. Nous avons exploré les jardins, les sous-bois, les allées, la volière. Puis nous sommes restés une heure ou plus dans le parc, au bord d'une mare où des racines de toutes formes faisaient avec leurs propres reflets d'étranges figures sur l'eau. Puis le château, tel quel, ou presque, portant tout autant la trace du temps que celle d'une splendeur encore réelle. Une vision de cinéma, disais-je. La sensation ne m'a pas quitté à l'intérieur du château, où allaient et venaient les spectres de ceux qui l'ont occupé. De hautes figures du théâtre et de l'art lyrique y sont venues séjourner, naturelles, tant l'endroit est un décor, un théâtre étourdissant. Mais je referme le coffre. Je ne veux pas tout vous raconter. Cormatin, souvenez-vous, c'est près de Thésée. Dans les jardins de Cormatin m'est revenue à l'esprit une musique de Paul Hindemith, sa sonate en mi pour le violon et le piano. Le duo Gazzana nous en interprète ici le premier mouvement. Thank you. Je peux bien vous l'avouer, je n'avais aucune envie de rentrer cette année. Pas envie d'être le messager de l'automne, celui des mauvais jours. J'ai voulu faire durer le soleil encore un peu. Rendez-vous donc le mois prochain pour la reprise des affaires sérieuses, promis. Je suis déjà très impatient de vous retrouver. Allez, nous réécoutons ce nouveau générique, ce O'Banion's Wake, qui, je l'espère, saura se lier d'amitié avec vos oreilles. Un bon mois de septembre à vous tous. Une bonne reprise, au mois prochain, même antenne, même émission. Au revoir.